Chapitre 17. La correspondance. Une lettre pour Monsieur Blaise, dit un jour le facteur, en présentant à Onfry une lettre sous enveloppe avec un beau cachet. Onfry prit la lettre et la remit à Blaise, qui s'empressa de la décacheter, tout surpris d'en recevoir une. « C'est de Monsieur Jacques, » s'écria-t-il en regardant la signature. « Ah, voyons donc, que te dit-il ? » Blaise lut tout haut. « Mon cher Blaise, il y a si longtemps que nous nous sommes quittés que tu m'as peut-être oublié. Mais moi, je pense souvent à toi et je t'aime toujours. Quand je suis parti, j'écrivais si mal et si lentement que je ne pouvais pas t'envoyer de lettres. À présent, j'ai 9 ans, je travaille beaucoup et je commence à devenir savant. Il est arrivé une chose très drôle chez un monsieur qui demeure près de chez nous. Sa maison a brûlé. Ce n'est pas cela qui est drôle, comme tu penses. Après l'incendie, toutes les souris sont devenues blanches. Il y en avait beaucoup et il y en a encore une quantité. Avant, elles étaient grises comme toutes les souris. Papa ne voulait pas le croire. Alors, M. Roussel a attrapé des souris, avec un petit chien qui est très habile pour cela, et papa et moi, nous avons vu que toutes les souris attrapées étaient réellement blanches. Je m'amuse assez, mais pas tant qu'avec toi. Je n'ai pas un seul bon camarade, bon comme toi. Ce qui est singulier et très désagréable, c'est qu'ils sont tous un peu menteurs. Quand ils ont fait une sottise, ils ne veulent jamais l'avouer et ils disent « ce n'est pas moi ». Moi, je continue à toujours dire la vérité comme tu me l'as conseillé et tout le monde me croit. Écris-moi quand tu dois faire ta première communion et quel jour ce sera pour que je pense à toi et que je prie pour toi ce jour-là. Dis-moi aussi ce que tu fais, si tu es heureux, si les enfants du monsieur qui a acheté notre château sont bons pour toi, s'ils t'aiment. On a dit à papa l'autre jour que le monsieur lui-même était méchant. Cela m'a fait peur pour toi, mon pauvre Blaise, toi qui es si bon. Ne va pas chez lui s'il est méchant, il te ferait du mal. Raconte-moi ce que tu fais et pense souvent à moi comme je pense souvent à toi. Adieu, mon cher Blaise, je t'embrasse de tout mon cœur. Embrasse pour moi ton papa et ta maman. Ton ami, Jacques de Berne. » Quelle bonne lettre, s'écria Blaise. Il ne m'oublie pas, ce pauvre monsieur Jacques. S'il m'avait interrogé l'année dernière sur ce qu'il me demande aujourd'hui pour monsieur le comte et ses enfants, j'aurais été bien embarrassé de répondre. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il y a une chose dans la lettre de monsieur Jacques qui me paraît drôle, comme il le dit lui-même, ajouta Blaise en riant, c'est qu'un incendie ait pu changer la couleur des souris. C'est pourtant très possible, car j'ai entendu raconter bien des fois à ton grand-père, qui a été soldat sous l'empereur Napoléon Ier, que lors de l'incendie de Moscou, en 1812, quand on est rentré dans les maisons que le feu n'avait pas atteintes, toutes les souris qui couraient au travers étaient blanches comme des lapins blancs. C'est singulier que la frayeur puisse produire un pareil effet sur des animaux. Vas-tu répondre à monsieur Jacques ? Oui, papa, aujourd'hui même, je n'ai plus à espérer de visite de monsieur le comte ni de monsieur Jules. Aussi, j'ai bien le temps. Tu lui diras que nous lui présentons bien nos respects et nos amitiés. Je n'y manquerai point, papa. Et Blaise, prenant du papier, une plume et de l'encre, fit à Jacques la réponse suivante. Mon cher monsieur Jacques, j'ai été bien heureux et bien surpris de votre chère et aimable lettre. Je vous remercie de ne pas m'oublier. Moi aussi, j'ai bien pensé à vous et j'ai plus d'une fois pleuré en y songeant. Je me suis consolé par la pensée que c'était la volonté du bon Dieu que nous fussions séparés, et que c'est le sacrifice qu'il me demande pour ma première communion. Merci, mon bon monsieur Jacques, de votre bonne pensée de prier pour moi en ce saint et heureux jour. Demandez à notre Seigneur de me rendre semblable à lui, de me donner du courage dans les temps de tristesse, de la force pour résister à la joie, afin que je n'oublie pas que je ne suis dans ce monde qu'en passant, et que ma vraie vie ne commencera que lorsque je ne pourrai plus mourir. Priez, mon bon monsieur Jacques, pour que je n'oublie jamais aucun de mes devoirs et que je m'oublie toujours pour me dévouer aux autres. Priez pour que je ne conserve aucun souvenir du mal qu'on me fait et que je n'oublie jamais les bienfaits que je reçois. On a trompé votre papa en lui disant que le comte de Trénilly était méchant. Il est bon comme le meilleur des hommes, je l'aime comme s'il était mon père. Son fils, M. Jules, est excellent aussi, ainsi que sa fille, Mademoiselle Hélène. M. Jules et moi, nous ferons notre première communion dans 3 semaines, le 8 septembre, fête de la Sainte Vierge. Monsieur le comte et Mademoiselle Hélène nous ont promis de communier avec nous ce jour-là, ce qui vous prouve combien ils sont réellement bons et pieux. Je suis très heureux, mon bon monsieur Jacques, heureux de tout ce que le bon Dieu veut bien m'envoyer, des peines comme de la joie. Papa et maman vous remercient bien de votre bon souvenir et vous présentent leur respect et leurs amitiés. Quant à moi, monsieur Jacques, je sais bien que ma position me défend de vous embrasser, mais je puis me permettre de vous assurer que je vous aime de l'affection la plus tendre et la plus dévouée. Votre humble et obéissant serviteur, Blaise Onfry. À peine Blaise avait-il fini et lu tout haut sa lettre qu'un domestique entra chez Onfry. Madame la comtesse demande Blaise. Moi, madame la comtesse me demande, répéta Blaise fort étonné. Oui, oui, et tout de suite encore. « Allez me chercher Blaise, m'a-t-elle dit, et amenez-le-moi le plus vite possible. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?» dit Onfry avec inquiétude. « Vas-y, mon Blaiseau, va, tu ne peux faire autrement, et reviens vite nous dire ce qui se sera passé, car je ne suis pas tranquille. »« Ne vous tourmentez point, papa, que voulez-vous qu'il m'arrive ? Et quand même il m'arriverait des choses pénibles, le bon Dieu n'est-il pas là pour me protéger, me secourir, et ne dois-je pas être heureux de me conformer à sa volonté ? Au revoir, papa, je resterai le moins que je pourrai. » Blaise partit gaiement et se dépêcha d'arriver pour être plus vite revenu. On le fit entrer immédiatement chez la comtesse, qui l'attendait avec impatience. Il salua. La comtesse lui fit un petit signe de tête, renvoya le domestique, s'assit et dit à Blaise, d'un air froid et hautain, « Je sais que tu as profité de mon absence pour t'emparer de l'esprit de mon mari et de mon fils. Tu as réussi, on ne peut mieux. Je ne vois que des visages allongés les jours où ils ne peuvent prétexter une promenade extraordinaire pour te faire leur visite. Il faudrait, pour leur rendre leur bonne humeur, que M. Blaise fût toujours près d'eux. Je sais que ma fille est entraînée par son père et par son frère à faire comme eux. Cet état de choses me contrarie et ne peut durer. Je t'ai fait venir pour te dire que j'ai encore assez bonne opinion de ta loyauté pour espérer d'être obéie en t'interdisant toute démarche qui pourrait te rapprocher de mes enfants. Quant au comte, tu peux passer ta vie à lui baiser les mains et lui faire des platitudes sans que je m'en préoccupe aucunement. » Mais je ne veux pas de cette sotte amitié de mes enfants pour un fils de portier et un petit intrigant. Si tu veux obéir à la défense que je te fais, je m'occuperai de ton avenir, et je t'assurerai une rente qui te mettra à l'abri de la pauvreté. Acceptes-tu ? Madame la comtesse, je n'enfreindrai pas la défense que vous me faites, quelque chagrin que j'en éprouve. Je prierai monsieur le comte de vouloir bien m'aider à suivre vos ordres. Quant à la pension, à l'éducation et aux avantages que vous voulez bien me promettre, vous me permettrez de tout refuser. Je n'ai besoin de rien, je ne veux pas sortir de ma condition, ni mener la vie d'un paresseux. Je gagnerai mon pain comme a fait mon père, et avec l'aide du bon Dieu, j'arriverai à la fin de ma vie sans avoir jamais vendu ni mon cœur, ni ma conscience. Je puis affirmer à Madame la Comtesse qu'elle se trompe en pensant que j'ai intrigué pour gagner l'amitié de Monsieur le Comte et de Monsieur Jules. Je n'ai rien fait pour cela, c'est venu tout seul, je ne sais comment, car je sens combien je suis loin de mériter les bontés de Monsieur le Comte, de Monsieur Jules et de Mademoiselle Hélène. Le bon Dieu a mené tout cela. Peut-être m'a-t-il donné tant d'amour pour eux afin de m'éprouver et me donner le mérite du sacrifice au moment de ma première communion. Mais, je vous le promets, Madame la Comtesse, je ne verrai vos enfants qu'avec votre permission. » En achevant ces mots, le pauvre Blaise, qui avait réussi jusque-là à conserver son sang-froid, fondit en larmes. Il voulut dire quelques mots d'excuse, mais les paroles ne pouvaient sortir de ses lèvres. Honteux de prolonger une scène dont la comtesse pouvait s'irriter, Blaise prit le parti de s'en aller sans autre explication et, saluant à la hâte, il s'avança vers la porte. Avant de l'ouvrir, il jeta un dernier regard sur la comtesse qui s'était levée et qui avait fait un pas vers lui. Un certain attendrissement se manifestait sur le visage de la comtesse. Au mouvement que fit Blaise pour s'arrêter, elle reprit son air hautain et fit un geste impérieux qui termina sa visite. Le pauvre garçon évita l'antichambre pour cacher ses larmes aux domestiques et sortit par un petit escalier qui communiquait à l'appartement du comte et des enfants. À peine avait-il franchi les premières marches qu'il se heurta contre M. de Trénilly, que les larmes qui obscurcissaient sa vue l'avaient empêché d'apercevoir. « Où vas-tu donc si précipitamment, mon ami, et comment es-tu rentré au château ?» lui dit M. de Trénilly en le retenant. Blaise ne répondit qu'en se serrant contre la poitrine du comte et en donnant libre cours à ses sanglots. « Blaise, mon enfant, pourquoi ces larmes, ces sanglots ?» dit le comte avec inquiétude. « Que t'arrive-t-il de fâcheux ? Dis-le-moi, parle sans crainte. » « Pardon, monsieur le comte, mon bon monsieur le comte, » répondit Blaise en retenant ses sanglots. « C'est que je ne m'attendais pas. J'ai été pris par surprise et je me suis laissé aller. Mais je vais tâcher d'être plus raisonnable, plus résigné. »« Résigné ? À quoi donc, mon cher enfant ? De quoi parles-tu ? » « Madame la comtesse m'a défendu de voir monsieur Jules et mademoiselle Hélène et j'ai promis de lui obéir. Vous voyez que j'ai de quoi pleurer et m'affliger. »« Encore ? » dit le comte avec colère. « Toujours cette haine contre ce noble et généreux enfant. » Le comte resta quelque temps immobile et pensif, tenant toujours Blaise de ses deux mains. « Mon cher enfant, dit-il enfin avec tristesse, je ne sais quel parti prendre pour épargner à toi et à Jules ce nouveau chagrin. Je ne puis forcer la volonté de ma femme. Je ne puis conseiller à mes enfants de désobéir à leur mère. Et pourtant, c'est cruel de devoir les sacrifier, ainsi que toi, à cette volonté impérieuse et déraisonnable. » « Cher monsieur le comte, soumettons-nous à ce qui nous vient par la permission du bon Dieu. » « C'est bien, bien pénible, il est vrai. Je sais que c'est triste pour vous et pour monsieur Jules, presque autant que pour moi-même, car vous m'aimez, je le sens dans mon cœur. Mais, mon cher monsieur le comte, savons-nous le temps que durera cette séparation ? Peut-être le bon Dieu touchera-t-il le cœur de madame la comtesse. Aidez-moi, aidez monsieur Jules et mademoiselle Hélène à lui obéir. Notre soumission l'adoucira et changera ses idées à mon égard. » Pensez donc qu'elle me croit faux, hypocrite, intrigant. Elle craint peut-être que je ne corrompe monsieur Jules et mademoiselle Hélène. Une mère, vous savez, monsieur le comte, c'est toujours si craintif, si inquiet. Elle est plus à plaindre qu'à blâmer, je vous assure. Ainsi, monsieur le comte, promettez-moi que vous m'aiderez à tenir ma promesse et que vous n'amènerez plus monsieur Jules et mademoiselle Hélène sans le consentement de madame la comtesse. « Voyons, très cher monsieur le comte, du courage. Je vois bien qu'il vous en coûte, d'abord par amitié pour monsieur Jules et pour moi, et puis parce qu'il en coûte toujours de céder, surtout à une femme. Mais c'est pour votre repos, pour votre bonheur, cher monsieur le comte. Croyez-moi, nous serons plus heureux en cédant qu'en résistant. » « Mon brave Blaise, dit le comte, c'est toujours de toi que viennent les sages avis et le bien. » « Je crois que tu as raison. Céder, c'est mieux. Mais toi, toi, pauvre enfant, qui ne penses jamais à toi-même, tu souffriras. » « Pas autant que je l'avais craint, puisque je vous verrai, vous, cher monsieur le comte, car vous continuerez à me visiter et à me donner des nouvelles de ce bon monsieur Jules et de cette excellente mademoiselle Hélène, toujours si bonne pour moi. » « Moi ? Tous les jours, mon enfant, tous les jours, c'est un besoin pour mon cœur. Tu sais si je t'aime. Tu serais mon fils, que je ne pourrais t'aimer davantage. » Le comte embrassa une dernière fois le pauvre Blaise, qui s'en alla fort triste, mais un peu consolé par les paroles affectueuses du comte. « Eh bien, mon Blaiseau, lui cria Henfri, du plus loin qu'il le vit. « Rien de bon, papa, répondit Blaise, mais pas trop mauvais non plus. » « Encore les yeux rouges, mon pauvre garçon, ces satanés gens te feront mourir de peine. » « Pas de danger, papa, dit Blaise en s'efforçant de sourire. il n'y a que le premier moment qui vous emporte parfois. Avec la réflexion, on se résigne. Tu passeras donc ta vie à te résigner, mon pauvre Blaise. Sans doute, papa, et c'est un vrai bonheur que le chagrin. Cela vous ramène toujours au bon Dieu, on prie mieux en apprenant à souffrir, le bon Dieu est là, qui vous aide et qui vous console si bien. Et pourtant, tu as pleuré, et tu pleures encore. Tiens, tiens, les larmes roulent sur tes pauvres joues amaigries. Ce n'est rien, papa, c'est un reste qui va s'en aller quand j'aurai fait une petite visite au bon Dieu dans son église. Blaise raconta à son père la cause de son nouveau chagrin en atténuant avec sa bonté accoutumée les paroles dures et injurieuses de la comtesse. Henri contenait avec peine sa colère. Il connaissait assez la comtesse pour deviner ce que la charité de Blaise lui cachait. Quand le récit fut fini, il serra Blaise dans ses bras à plusieurs reprises et le laissa aller chercher près du bon Dieu sa consolation accoutumée contre les chagrins qu'il supportait avec une fermeté au-dessus de son âge.